Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les historiens considèrent volontiers que le printemps de Prague a commencé en 1967 par une révolte des intellectuels et des écrivains réclamant la liberté d'expression. Mais c'est l'éruption d'Alexander Dubček à la tête du Parti communiste tchécoslovaque le 5 janvier 1968 qui marque le début officiel de ce mouvement qui a suscité beaucoup d'espoir des deux côtés du rideau de fer. Rapidement, la censure est abolie, les victimes des procès sont réhabilitées et de Prague à Bratislava, il souffle un vent de liberté de plus en plus fort. Mais à Moscou et dans les capitales des pays frères, entre guillemets, qui craignent la contagion, l'inquiétude grandit. L'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août met fin à l'idée d'un socialisme à visage humain. Le printemps de Prague, l'autre grande secousse de 1968, mais que reste-t-il aujourd'hui de ce printemps à Prague? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et vous êtes d'origine tchèque, tchèque et français aujourd'hui?
Pragois d'origine.
Pragois d'origine. Lukas Maček, bonjour. Vous êtes vous aussi professeur et directeur de l'antenne de Sciences Po Paris à Dijon. Français et tchèque ou tchèque et français?
Chronologiquement, certainement tchèque et français.
Et à Prague, nous rejoignons Peter Januska. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez été ambassadeur de la République tchèque en France. C'était au début des années 2000. Merci d'être en ligne de la capitale tchèque. Alors, Jacques Rupnik, c'est pas un hasard si les prémices du printemps de Prague commencent quelques mois plus tôt par une révolte des étudiants, des intellectuels dans un pays figé, dans une ambiance de guerre froide, alors que partout à la surface du globe bruisse la vie, bruisse des nouvelles conquêtes de liberté. À quoi ressemble la Tchécoslovaquie en 1967?
Je pense que le printemps de Prague, comme vous l'avez bien dit, ne commence pas le 5 janvier 68 avec l'élection d'Alexandre Dubček. Ça commence, je dirais, quelque part au début des années 60, avec un dégel au moins partiel dans le domaine culturel. Et vous avez, en gros, toutes les années 60, un processus d'émancipation de la sphère culturelle par rapport au pouvoir communiste. La censure, disons, était de moins en moins rigoureuse ou vigilante. Et vous avez donc un âge d'or de la culture tchèque, littérature, théâtre, cinéma, la nouvelle vague du cinéma tchèque. Tout ça précède, en quelque sorte, la culture précède le changement politique et amène, donc, évidemment, le congrès de l'Union des écrivains. C'est là que la confrontation se cristallise, puisque vous avez là quelques grands écrivains qui ont fait des discours où ils s'attaquaient ouvertement.
On peut citer par exemple Milan Kundera.
Évidemment. On peut citer Milan Kundera, qui reprend dans son discours une vieille question du 19e siècle, qu'un auteur, Gordon Schauer, avait déjà posée. À quoi cela sert-il de créer des œuvres dans une langue que personne ne lit? Mais ça n'a de sens que si vous contribuez véritablement à la culture européenne et à la culture universelle. Donc, ça vaut la peine de passer par le particulier si vous atteignez l'universel. Et en gros, il dit, mais le carcan que nous impose ce système est évidemment une façon de produire une culture dans la langue, mais qui n'a pas de portée au-delà. Donc, il faut confronter cela. Vous voyez la tonalité, les écrivains s'en prenaient au pouvoir politique directement. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a eu une tentative de les museler, mais qui n'a pas abouti. Et c'est pendant le printemps de Prague que, je dirais, cette sphère culturelle, ces écrivains, sont devenus les porte-parole des aspirations de la société.
Alors, un bouillonnement culturel, comme vient de l'expliquer Jacques Rupnik, mais dans un pays qui est en crise économique. Il est dans une impasse économique en 1967, la Tchécoslovaquie. Elle est.
Oui, aussi un pays qui a connu, dans le bloc soviétique, des années 50 particulièrement rudes. C'est vrai que, mis à part l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie était sans doute l'un des pays où la répression communiste des années 50 était la plus dure.
Le fameux coup de Prague.
Tout à fait. Et la déstalinisation 48. Qui a mis du temps. Le démantèlement de la fameuse statue géante de Staline est arrivé bien après le congrès et les révélations de Khrushchev. Donc, vraiment un décalage très important entre, d'un côté, ce bouillonnement culturel et puis une sphère politique qui restait encore très stalinienne.
Alors, un bouillonnement culturel, une économie en panne et puis des tensions entre les Tchèques et les Slovaques, car c'est encore la Tchécoslovaquie à l'époque.
Tout à fait. D'ailleurs, on y reviendra certainement plus tard, mais je pense qu'il y a un décalage de perception de 68 côté tchèque et côté slovaque, parce que pour les Slovaques, ça coïncidait aussi avec la revendication d'une fédéralisation de la Tchécoslovaquie, qui du coup était un résultat durable de 68.
En gros, les Slovaques voulaient être sur un pied d'égalité avec les Tchèques, ce qui n'était pas forcément le cas.
Disons que c'est une revendication qui remonte à la Première République tchécoslovaque, avec un vieux débat, y a-t-il eu une promesse non tenue par les pères fondateurs de la Tchécoslovaquie sur le fait que le pays serait une fédération, et effectivement, jusqu'en 68, c'était pas le cas. Même après 68, c'était une fédération dans un système communiste, donc une fédération de façade, sachant que le vrai pouvoir, de toute façon, était tenu par le parti.
Politiquement, le printemps de Prague commence par une lutte au sommet du Parti communiste entre les conservateurs staliniens sous la houlette d'Antonine Novotny et les libéraux conduits par Alexander Dubček. Et le 5 janvier 1968, Alexander Dubček est élu d'une courte tête, premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Aujourd'hui, on emploierait peut-être le terme de tsunami politique. En tout cas, un bouleversement que relate Paul Bablin pour France Inter. Il était à l'époque journaliste à l'AFP.
Un Tchécoslovaque qui rentrerait aujourd'hui dans sa patrie après 3 mois d'absence ne reconnaîtrait pas son pays. Tout a commencé avec la dernière session plénière du comité central du Parti communiste en janvier, où la tendance libérale, que l'on appelle ici progressiste, incarnée par le nouveau secrétaire général du parti, M. Alexander Dubček, a réussi à s'imposer dans des circonstances dramatiques. L'éviction de M. Antonin Novotny du poste de premier secrétaire, d'ailleurs obtenu de justesse, n'a pas mis un point final à la lutte entre les deux tendances qui s'étaient affrontées au comité central. Cette lutte, on la retrouve actuellement dans les organisations de base du parti, où chacun des deux adversaires, par le truchement de ses partisans, tente de faire prévaloir son point de vue. Récemment, l'issue restait encore incertaine, mais l'affaire Cheina, qui a éclaté entre-temps, semble avoir fait pencher la balance en faveur des libéraux. La situation du président de la République, M. Antonin Novotny, se trouve fortement ébranlée. Aussi doit-on s'attendre, dans les prochains jours, à un développement spectaculaire de la situation en Tchécoslovaquie.
Et ce développement spectaculaire a eu bien lieu. Une archive INA datée de janvier 1968. Peter Janiszka, vous aviez 15 ans en 1968. Alors, quel souvenir gardez-vous des débuts de ce printemps de Prague?
Alors écoutez, il faut remettre tout ça un peu dans le contexte, c'est-à-dire qu'on vivait dans un pays totalement communiste, c'est-à-dire une dictature. Politiquement, idéologiquement, personne ne pensait dans d'autres termes que les termes communistes. Donc même aujourd'hui, quand vous lisez les documents du printemps de Prague, c'est illisible parce que c'est en langage totalement stalinien, comme toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, dans cette pesanteur qui était très très lourde, et aussi économique, parce que dans les magasins, vous trouviez très peu de choses. La France d'aujourd'hui, la Tchécoslovaquie d'ailleurs, ça n'a rien à faire. Ce qui manquait, c'était tout. Il manquait des oignons, il manquait des ampoules électriques, il manquait des chaussettes, tout. Alors, tout d'un coup, il y a une lueur d'espoir. D'espoir que ça peut aller mieux. Les gens ne réfléchissaient pas en termes politiques, à part quelques apparatchiks au comité central, mais il y a eu cet espoir que ça peut aller mieux et il suffirait que tout le monde mette de la bonne volonté, un peu plus d'énergie et que ça pourrait aller mieux. Je vais vous donner un petit exemple. Alors que dans tout le système communiste, la Tchécoslovaquie, quand vous entriez dans un magasin, vous demandiez, vous avez des ampoules électriques 100 watts, on vous disait, non, il n'y en a pas. Et en 68, le changement, c'était l'abandon. Je vous disais, non, il n'y en a pas. Mais écoutez, monsieur, venez mercredi prochain, très probablement, on peut en avoir un peu. Donc vous voyez, ce changement, ça a été très, très important. Et ce qui a été très important, c'est évidemment la voix des intellectuels. C'est d'ailleurs des écrivains et des journalistes. Mmh. À cette époque, les journalistes ont joué un rôle vraiment prépondérant. C'est eux qui poussait la société vers plus de démocratisation.
C'est quand même une parole qui s'est libérée en 1968 en Tchécoslovaquie, pardon.
La parole qui a été orientée vers le passé, parce que c'était pour la première fois qu'on osait un peu, pas beaucoup, hein, n'exagérons pas, mais oser un peu de parler des horreurs communistes des années 50, c'est-à-dire des tortures, des morts, des camps de travail, les mines d'uranium, etc. Et donc, on libérait un peu aussi la mémoire de tous ceux qui ont souffert, parce qu'ils étaient des centaines de milliers, et pendant de longues années, ils n'avaient pas le droit à leur histoire. Et aussi, cette ouverture a été ouverte vers l'avenir, c'est-à-dire, petit à petit, on proposait des idées comment sortir de ce carcan de communisme dur. Encore une fois, n'exagérons pas, l'idée, il y a eu quelques personnes qui osaient même à demander une nouvelle existence du Parti social-démocrate, qui avait été terminé en 48, et cela a été considéré, même par les Dubček et les autres, comme quelque chose qu'on ne pourrait jamais faire, parce que c'était considéré comme trop de droite. Donc vous voyez, donc les limites étaient très minces. Mais c'était l'espoir qui était le plus important.
Jacques Rupnik, l'espoir, comme vient de le dire Peter Januszka, et un bouillonnement soudain à Prague, en tout cas à Prague, peut-être pas dans le reste du pays, mais en tout cas à Prague.
Non, dans tout le pays, évidemment à Prague, c'est là que c'est le plus visible, disons. Imaginez un pays qui est verrouillé par la censure pendant 20 ans, où vous abolissez la censure. Hein? Le 5 janvier, quand Dubček est élu, personne ne se doute de rien. Moi, j'étais à Prague ce jour-là. J'étais avec un camarade de classe, un ancien camarade de classe. On nous annonce qu'il y a un nouveau secrétaire général.
Vous le connaissez à peine?
Personne ne le connaissait. C'était un illustre inconnu, un apparatchik de Slovaquie. Bon, je dis ça pour au moment où il est élu, personne ne s'attend à rien. Un mois après, vous avez l'abolition de la censure. Mais vous faites exploser le système avec... pas seulement les révélations sur le passé, les procès, les débats sur tout ce qui a été mentionné par Petr Janečka, mais aussi le débat sur la situation actuelle du pays, comment en sortir. Et vous avez là un débat qui est à la fois sur la réforme économique qui va très loin, c'est pas du tout une réformette, c'est Otachik qui est le père de la réforme, a ensuite écrit un livre qui s'appelait La troisième voie, bien avant que Tony Blair et d'autres utilisent ce terme, et il y avait l'idée que il y avait le communisme d'obédience soviétique à l'est, il y avait le capitalisme à l'ouest et qu'il y avait une troisième voie qu'on pouvait essayer de définir.
C'est ce qu'on appelait l'idée du socialisme.
Socialisme à visage humain, donc ça avait cette dimension économique entre le marché, introduire le marché dans un système socialiste. Bon, évidemment, la difficulté était majeure. Vous avez un système socialiste, mais où on a aboli la censure. Vous voulez introduire le pluralisme, et donc liberté d'association, immédiatement. Multiples associations se créent. Václav Havel définissait 68, non pas comme une espèce de querelle au sein de la direction du parti entre libéraux et conservateurs. Il disait, c'est un grand moment de réveil de la société civile en Tchécoslovaquie. Et c'est ce réveil de la société civile qui poussait la sphère du pouvoir dans ses retranchements. À quel moment le pluralisme, qui était donc censé être reconnu, pouvait se traduire au plan politique. Et évidemment, dès qu'on posait la question du pluralisme politique, y compris la création de partis donc qui ne seraient plus communistes ou contrôlés par le parti communiste, cela suscite des crispations. Mais la question devait être tranchée au mois d'août au congrès du parti communiste. La question n'était pas tranchée. Il y avait une pression. Les dirigeants communistes étaient prudents parce qu'ils voulaient, ils craignaient les pressions de Moscou. Il faut se souvenir qu'ils étaient face à une pression formidable de la société civile qui demande l'ouverture, le pluralisme, la liberté et le retour en Europe. C'était déjà un des thèmes de 68. Et vous avez de l'autre côté le pacte de Varsovie qui se réunit régulièrement pour sommer la direction pragoise d'arrêter tout net ces réformes. Et donc, pris entre les deux feux, Dubček dit « nous allons résoudre cela avec une nouvelle direction, avec un nouveau parti qui sera élu au mois d'août 68 ». Et évidemment, c'est le 20 août, quelques jours avant la convocation de ce congrès qui devait être décisif, que l'invasion par les chars soviétiques.
On va évidemment aborder le thème de l'invasion dans la deuxième partie de l'émission, mais Luka Samalchek, quelle est la personnalité de ce personnage qui a été central dans le printemps de Pâques, Alexander Dubček? Est-ce que c'est un personnage plutôt humble ou au contraire très très ambitieux? Est-ce qu'il était un vrai libéral ou un communiste débordé par la situation? Est-ce qu'il a conduit une politique portée par le mouvement ou est-ce qu'il a surfé sur la vague?
Difficile à dire. La perception que j'en ai, qui est aussi marquée beaucoup par sa deuxième apparition publique, qui était celle de 89, et forcément pour ma génération, c'est surtout Dubček de 89 que je me rappelle. Et justement aussi, j'ai une perception marquée par ça, parce qu'en 89, il paraissait déjà débordé, justement. Et donc, peut-être que je fais un peu une projection un peu anachronique de ça, mais j'ai quand même le ressenti et un peu la perception de quelqu'un qui déchaînait un peu des forces qu'il était loin de maîtriser. Et que c'était sans doute quelqu'un, effectivement, d'honnête, d'intègre. C'était pas un grand intellectuel. C'était effectivement quelqu'un qui a fait une carrière d'apparatchik communiste.
Un parallèle peut-être avec Gorbatchev.
Alors effectivement, à la différence près que justement Gorbatchev était quelqu'un qui a fait des études de haut niveau, qui à mon avis était effectivement plus, avait un profil peut-être plus intellectuel, même que lui aussi c'était un grand apparatchik. Mais je pense que Dubček était quelqu'un de peut-être plus simple, dans le bon sens du terme, qui avait de la bonne volonté, qui a effectivement ressenti, qui était sans doute très sensible, mille fois plus sensible que la moyenne des apparatchiks communistes à ces aspirations de la société que Jacques Rupnik vient de décrire, mais je pense qu'à un moment donné, il perdait le contrôle. Et effectivement, on peut faire l'histoire avec des si, mais il est très difficile à imaginer comment il aurait géré les suites. Parce que fondamentalement, je pense qu'il restait un communiste convaincu. Et je pense qu'il y avait une contradiction entre... parce que Jacques Rupnik a parlé de ces deux pressions, mais je pense que ces deux pressions, quelque part, elles étaient aussi en son fort intérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui ne voulait pas démanteler le communisme en Tchécoslovaquie, et en même temps, il a tout fait pour en créer les conditions.
Peter Nieczka, d'un mot, c'est aussi votre impression, il est resté un communiste jusqu'au bout, et il a été dépassé par les événements?
Absolument. Dubček, pour moi, n'était jamais une grande personnalité. C'était un apparatchik qui simplement a eu la chance, comme le premier apparatchik communiste depuis la prise du pouvoir en 48, d'être aimé par la population duquel a voulu être populaire. Et dans ce sens-là, il naviguait, mais il n'était jamais maître de la situation. Le printemps de Prague, c'était les intellectuels, les écrivains, les journalistes qui ont poussé. Et Dubček était entre les deux feux. Entre les deux feux. Et ça, vous voyez aussi qu'après l'invasion, on va passer tout de suite, après l'invasion soviétique, Dubček n'a été en aucun mot un leader. Il reculait. Parce que Dubček et son entourage, n'oublions pas, c'était pas des gens qui ont voulu mettre fin au communisme. Dubček était un communiste, né communiste, il est né en Union soviétique, il parlait peut-être mieux le russe que le slovaque, dans une famille communiste. Il a passé toute sa vie dans cet entourage, donc il a voulu apporter quelques changements, une opération plastique, mais il n'a jamais eu l'idée que le régime pouvait disparaître. Et c'est ça le grand dilemme de cette époque. Moi, je dirais que le printemps de Prague, c'était l'ouverture de novembre 89. C'est-à-dire, c'était les premières germes, une tentative de terminer avec le communisme sans que ça porte encore son mot. C'était son nom. C'était peut-être ça.
Et bien, on va reparler de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. En tout cas, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'irruption d'Alexander Dubček à la tête du Parti communiste tchécoslovaque le 5 janvier 1968 marque le début officiel du printemps de Prague. Rapidement, la censure est abolie, les victimes des procès sont réhabilitées et de Prague à Bratislava, il souffle un vent de liberté. Mais à Moscou et dans les capitales des pays frères, entre guillemets, qui craignent la contagion, l'inquiétude grandit et dans la nuit du 20 au 21 août, l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie met fin à l'idée d'un socialisme à visage humain. Le printemps de Prague, l'autre grande secousse de 1968. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce printemps à Prague? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Jacques Lupnik, il est professeur à Sciences Po Paris. Lukas Maciek, professeur et directeur de l'antenne de Sciences Po Paris, mais à Dijon. Et en ligne de Prague, Peter Janiska, il est journaliste et il a été ambassadeur de la République tchèque en France il y a quelques années. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Raymond Clarinard.
Bonjour Daniel.
Courrier International a consacré de nombreux articles à cette année 1968 de par le monde, année remuante s'il en est. Le mai des Français et le printemps des Tchécoslovaques ont quelque peu esquivé les autres mouvements à la surface du globe et même en Europe. C'est le cas de la Pologne où les étudiants se sont aussi révoltés.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est justement là-dessus que revient un article que nous proposons tiré de l'hebdomadaire polonais Politica et qui nous brosse rapidement le tableau de ces événements historiques. En fait, tout commence en mars 1968 et les étudiants polonais en fait se regroupent dans les universités, en particulier à l'université de Varsovie, et commencent à manifester pour réclamer ce qu'ils appellent eux l'indépendance et la culture sans censure. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un assouplissement de la tutelle du Parti communiste sur les études et plus généralement sur la vie culturelle en Pologne. L'ennui étant que, évidemment, le pouvoir communiste de Varsovie ne l'entend pas de cette oreille et choisit immédiatement la répression.
Cette répression, elle a eu des relents d'antisémitisme en Pologne.
Oui, alors justement, cette répression prend une coloration particulière en Pologne. En fait, en Pologne, l'antisémitisme, qui avait malheureusement connu déjà une première flambée dès 45 et dès la fin de la Shoah, puisque des rescapés de la Shoah en avaient souffert à l'époque, en 1967, à cause de la guerre des six jours, le camp communiste soutenant les pays arabes, l'antisémitisme en Pologne avait recommencé à grimper et à être utilisé par le pouvoir. Et là, le premier secrétaire du Parti communiste polonais, donc Gomulka, ne fit ni une ni deux, il n'hésite pas, et il accuse les étudiants et leurs leaders d'être tout simplement des agents des sionistes qui veulent saper la stabilité de la Pologne, si bien que les étudiants arrêtés sont accusés d'outrage à la nation polonaise, ce qui peut valoir jusqu'à 10 ans derrière les barreaux aux étudiants. Cette campagne d'antisémitisme prend des proportions énormes, en particulier dans les médias, pour dresser toute la population contre les étudiants. Et ça prend de telles proportions que, finalement, beaucoup de juifs polonais qui ont encore en eux la mémoire de la Shoah vont choisir l'émigration. On estime qu'ils sont entre 15 000 et 25 000 à avoir quitté le pays dans la foulée.
Merci Raymond Clarinard. Courrier international, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Situation très, et dérive très particulière à la Pologne, Jacques Rupnik. Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements en Europe centrale et orientale qui ont été évidemment un peu évincés par la force et l'irruption du printemps de Prague à Prague et évidemment en mai 68?
Bon, le printemps de Prague, c'était bien sûr la tentative la plus aboutie, disons, de proposer un programme d'ensemble de réformes politiques, économiques, de liberté. En Pologne, ça a été beaucoup plus court, puisque là, le déclencheur, c'est l'interdiction d'une pièce de théâtre, un classique de la littérature polonaise, « Les aïeux » de Mickiewicz. Et là, on se mobilise contre la censure, la liberté d'expression, et donc les étudiants et les universitaires sont en première ligne. Il y a la répression, les 13 000 Polonais d'origine juive qui quittent le pays, mais il y a aussi la purge à l'université. Hein. On voit arriver dans les universités d'Europe occidentale les grands professeurs de Varsovie, Leszek Kolakowski va à Oxford, Krzysztof Pomian arrive à Paris, etc. Donc, c'est on décime en gros l'élite intellectuelle polonaise à ce moment-là. Et puis il y a Belgrade. Il y a aussi un peu plus tard, juin-juillet, qu'on appelait le mouvement anti-bureaucratique, la révolution. Dans un contexte différent, celui de la Yougoslavie, qui avait choisi un modèle différent de socialisme, mais là aussi, plus de liberté, l'autogestion, disons, c'était la quête d'un socialisme qui serait pas confisqué par la bureaucratie. On veut changer le socialisme démocratique, socialisme autogestionnel. Mais le mot socialisme...
Il y a un débat
parallèle
en France d'ailleurs, hein. Oui. Enfin, ou dans en Europe de l'Ouest.
Oui, parallèle, mais pas tout à fait similaire. Mais je veux dire, c'est ça la grande différence avec 89. C'est-à-dire, 89, là, il n'y aura plus... quand on s'interroge, est-ce qu'il y a une continuité avec 89, c'est ça la grande différence. 68 était un débat encore au sein du socialisme, 89 est une rupture complète avec cet héritage.
Lucas Mendel, qu'est-ce qu'on sait en Europe centrale de ce qui se passe en Tchécoslovaquie? L'information arrive à passer à travers notamment les radios internationales ou pas? Qu'est-ce qu'on en sait?
Moi, c'est déjà ce qui m'a marqué, un des grands souvenirs de mon enfance, peut-être un des débuts de mon intérêt pour la politique, c'est déjà de découvrir à quel point, au sein même de la société tchèque ou tchécoslovaque, il y a eu un espèce de tabou sur 68 et sur l'invasion soviétique. C'est-à-dire, voilà, parmi moi, il se trouve que j'étais dans une famille où effectivement cette mémoire a été transmise, mais toujours en disant, mais surtout faut surtout pas en parler à l'école. Et effectivement, je sais que j'ai plein de camarades de ma génération qui n'ont jamais entendu parler, qui n'étaient pas au courant que l'armée soviétique est stationnée en Tchécoslovaquie et qu'on est un pays occupé.
Peter Januszka, à partir de quel moment, quelle décision fait que l'intervention du pacte de Varsovie devient inévitable, en tout cas dans l'esprit de Moscou, dirigé à l'époque, c'est l'URSS, c'est Léonid Brejnev qui dirige l'URSS, et puis les pays frères qui évidemment s'affolent un petit peu de tout ce qui se passe à Prague et qui craignent une contagion dans leur propre pays.
Je pense que l'idée que ce mouvement de printemps de Prague devrait être arrêté était à Moscou dès le début, aussi bien chez les Honecker, chez les Polonais et les autres. Il y a eu plusieurs rencontres entre Dubček et ses collaborateurs et les soviétiques, les représentants du pacte de Varsovie, parce que très souvent on parlait de pacte de Varsovie, donc le côté militaire était présent. Ce qui était absolument décisif pour la date, je dirais, d'ailleurs Jacques Roupnik a déjà mentionné, si on se demande pourquoi les soviétiques sont venus en mi-août et pas avant ou après, je pense que premièrement parce que c'était les vacances, et pour la première fois depuis la Deuxième Guerre, les Tchécoslovaques ont eu le droit de voyager à l'Occident, donc le pays était un peu vide, si je peux dire, enfin, beaucoup des leaders du printemps de Prague se trouvaient à l'étranger. Et deuxième chose, c'était l'histoire de ce congrès du Parti communiste, car il devait avoir lieu fin août ou début septembre, et l'idée c'était de changer là, par une voie tout à fait démocratique, ce qui était très nouveau et inconnu et pour un système communiste, de procéder par vote libre et à changer la direction du parti. Ça, les communistes soviétiques ne pouvaient pas le laisser passer, et ils sont intervenus. Parce que dans le discours des soviétiques et des communistes polonais, bulgares et autres, est-allemands, qui étaient des plus durs d'ailleurs, plus staliniens, on disait que c'était une petite minorité ici en Tchécoslovaquie, les forces, à l'époque on l'appelait ça les forces antisocialistes, anticommunistes, impérialistes, pro-américaines, etc., qui ont voulu changer le régime. Avec un congrès du Parti communiste qui aurait donné la légitimisation de tout ce processus, ça aurait été beaucoup plus difficile, évidemment, de prétendre dans le reste du monde que c'était une petite minorité. Voilà. Mais dans cette histoire encore, ce qui est important, c'est que vous avez, depuis le début de 68 jusqu'à l'invasion, vous avez cette poussée incroyable des journalistes, des écrivains, des intellectuels, et il y a le Parti communiste qui cède petit à petit. N'oublions pas que, quand on dit, Jacques a dit par exemple, voilà, la fin de la censure, mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, à l'époque, toutes les voix possibles ont pu se faire entendre, parce que tous ceux qui étaient au pouvoir, qui pouvaient publier, qui étaient dans les rédactions, c'était des membres du Parti communiste. Les non-communistes, pendant les années 50, ont été pratiquement éliminés de la vie publique, pas seulement politique, mais publique. Donc l'année 68, c'est un peu c'est l'idée des communistes les plus éclairés de changer le système. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'embellissement du socialisme. Le mot communisme, le capitalisme n'existe pas.
RFI à Prague, 99.3 FM.
Carrefour de l'Europe, le printemps de Prague, l'autre grande secousse de 1968. Nous sommes avec Jacques Kuchniv, professeur à Sciences Po Paris, avec Lucas Matschek, professeur et directeur de l'antenne de Sciences Po Paris à Dijon, et avec Peter Janiska, il est journaliste et ancien ambassadeur de la République tchèque en France. Il est en ligne de Prague. Dans la nuit du 20 au 21 août, les troupes soviétiques et celles du pacte de Varsovie, environ 200 000 hommes dans un premier temps, ont envahi le pays et se sont déployés dans les principales villes et d'abord dans la capitale Prague. Et l'un des premier objectif des envahisseurs a été l'immeuble de la radio nationale tchèque au lieu de la résistance, les derniers moments de Radio Prague libre.
L'avenue est déjà remplie de chars. Du toit de la maison de la radio, on voit au moins 10 blindés qui avancent. Les gens essayent d'élever les barricades pour couper l'accès à la maison de la radio aux envahisseurs. On ignore combien de temps cette résistance pourra durer. On entend un violent échange de coups de feu dans la rue.
Chers amis, si vous m'entendez encore, je vous en prie, au nom du personnel de la radio, ne faites rien qui pourrait conduire à verser du sang inutilement.
Peter Janiska, je reviens vers vous. Je suis sûr que vous avez en mémoire l'image du premier char soviétique que vous avez vu dans les rues de Prague. Je rappelle, vous aviez 15 ans en 1968.
Et j'habitais juste à côté de la radio. Vous avez, les chars sont venus le matin, c'était un choc, la ville pleine de chars, et les gens se passent, n'oublions pas, à l'époque, il n'existait ni Internet, ni les portables, donc les gens se passent l'information par les lignes téléphoniques, on frappe aux portes des voisins en leur disant, en leur passant cette nouvelle qui, dans les premières minutes, paraissait tout à fait impossible. C'était un choc. Les Tchécoslovaques n'ont jamais pensé que ça aurait pu se dérouler de cette façon-là. Alors très vite, les chars sont posés devant les immeubles stratégiques et à la radio se trouve en vrai centre-ville, un peu comme sur les Champs-Élysées à Paris, il y a des chars. Parce que déjà, en 45, à la fin de la guerre, le soulèvement de Prague commence autour de cette radio. Donc je pense qu'elle a repris ce symbolisme et les gens se sont rués vers cette radio comme le symbole de la dernière liberté. Alors, il y a des jeunes qui ne savent pas que faire. Il y a des gens qui jettent de l'essence sur les chars. Plusieurs chars sont en flammes. Les chars tirent. Il y a des morts. Je me rappelle par exemple que toutes les femmes se sont ruées dans les magasins pour faire des approvisionnements. Le lendemain, les magasins sont fermés, il n'y a plus rien. Devant notre immeuble, il y a des soldats soviétiques en poste qui empêchent tous les hommes à partir de 15 ans de sortir. Donc j'étais enfermé pendant plusieurs jours dans notre immeuble, prenant des photos par la fenêtre. Dès que les soldats voient quelqu'un bouger derrière les fenêtres, ils tirent. Voilà, donc c'est ça la situation à Prague.
Jacques Rupnik, Peter Janiska nous explique bien ses souvenirs. D'abord une sidération, ensuite une résistance, mais difficile, des victimes, et puis petit à petit, la normalisation.
Vous savez, ce qui était formidable, c'était la résistance pacifique. C'est maintenant dans les manuels de résistance civique. Le cas de août 68 est étudié, c'était extraordinaire. Les gens dans la rue, sans armes, sans rien, en enlevant les panneaux de signalisation, en empêchant les troupes de s'approvisionner en nourriture, etc., ont complètement déboussolé cette armée d'occupation. 500 000 d'hommes de troupes qui arrivent dans un pays et ils n'arrivent pas à le contrôler. Au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, ils sont obligés de changer les soldats qui étaient perdus, démoralisés, etc. Donc, c'est un cas extraordinaire où il y a eu très peu de victimes, je ne veux pas les minimiser, c'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est l'extraordinaire mobilisation de toute la société qui, pacifiquement, a montré qu'une occupation d'un pays, ça suffit pas. Et ça m'amène au deuxième point. Les Russes occupent le pays, mais ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir politique. Ils avaient prévu un gouvernement dit ouvrier et paysan. Or, vu ce qui se passait dans le pays, même les 3-4 collaborateurs qu'ils avaient trouvés n'osaient pas se présenter au public. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Dubček et les siens, qui ont été arrêtés dans l'immeuble de la direction du parti, dans la nuit du 20 au 21 août, et qui ont été amenés comme prisonniers en Union soviétique, en Ukraine, et qui étaient là, dans un trou, en prison, on les fait sortir au bout d'une semaine, et on dit, alors, tout compte fait, vous n'êtes pas prisonniers, vous êtes des interlocuteurs. On les amène à Moscou pour des négociations incroyable, où on a cet échange, un dialogue de sourds. Dubček qui dit « Mais pourquoi êtes-vous intervenu ? Nous étions en train de réussir à rendre le socialisme attractif. » Et c'était important pour notre pays, bien sûr, jamais le Parti
mais
communiste.
Mais c'était important pour vous aussi à Moscou.
Mais c'était important pour toute l'Europe, parce qu'on va rendre l'idée du socialisme attractif. Brejnev lui répond « Mais qui s'intéresse à rendre le socialisme attractif ? Nous voulons, nous avons, nos soldats ont conquis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont fait des sacrifices immenses pour conquérir la moitié de l'Europe, et c'est de ça qu'il s'agit. Et vous me parlez des partis communistes occidentaux, ils sont inutiles, sans intérêt, depuis un demi-siècle, lui dit-il. Donc là, on a les deux visions. Dubček qui essaye de présenter le printemps de Prague comme l'ultime moment où on peut sauver l'idée du socialisme du naufrage. Et Brejnev lui dit, mais ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'une grande puissance.
Alors, ça s'est traduit petit à petit par la normalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la normalisation, Lukas Matček, pour les Tchèques qui ont, entre autres, participé à ce mouvement formidable du printemps de Prague?
C'est justement la retombée progressive de cette formidable mobilisation que Jacques Rupnik vient de décrire. C'est-à-dire, petit à petit, il y a une sorte de fatalisme. Il y a une reprise en main parce que dans un second temps, les soviétiques ont réussi à effectivement trouver une nouvelle direction du Parti communiste qui commençait à verrouiller le système. Un après l'autre, les hommes du printemps de Prague ont
été
écartés.
On peut commencer par Dubček qui revient.
Qui devient président du
Parlement,
de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs signe certaines lois et d'une certaine manière contribue à peut-être à un certain marché de dupes, c'est-à-dire il y a un sentiment d'une certaine continuité, mais qui en fait est déjà le début du démantèlement. Ensuite, il va être envoyé comme ambassadeur à Ankara.
Et donc, puis finalement,
il termine ouvrier comme forestier en Slovaquie. Ouais. Voilà, tout à fait.
Donc, on peut en parallèle, Václav Havel, c'est un peu la même chose.
Les Soviétiques n'ont pas réussi à écraser brutalement dans l'immédiat la société civile tchécoslovaque, mais ils ont réussi à l'endormir et petit à petit la remettre dans la servitude dans laquelle elle était avant 68. Donc la normalisation, c'est ça. C'est le nom officiel, c'est le politiquement correct communiste pour dire cette reprise en main du pays, ce retour avant, enfin cet effacement de 68, et le personnage clé de cela sera Gustav Husák, qui deviendra premier secrétaire, l'homme qui au départ aurait pu apparaître comme un proche des hommes de 68, lui-même prisonnier politique des années 50, etc., mais qui a fait le pari pragmatique
le normalisateur.
De devenir le normalisateur, de devenir l'homme de Brejnev qui va pacifier le pays en le faisant avec une certaine intelligence, c'est-à-dire progressivement. Effectivement, je pense que l'idée d'assoupissement, la société civile s'est épuisée, s'est fatiguée, s'est fait avoir d'une certaine manière. Malgré des tentatives de la sortir de cette torpeur, comme le geste de Jan Palach, par exemple.
Alors, il faut rappeler justement le geste de Jan Palach. On est en janvier 69, un an après l'arrivée d'Alexander Dubček à la tête du Parti communiste tchécoslovaque. Et ce jeune étudiant, il a 21 ans, je crois, s'immole par le feu.
Qui, justement, voulait secouer un peu les consciences de ses concitoyens. Ça a eu son effet à court terme, mais là encore, la force de cette pression de la normalisation s'est avérée plus efficace.
Que reste-t-il justement un mot, Lukas Matček, vous êtes en contact avec des étudiants, notamment des étudiants d'Europe centrale et donc des étudiants tchèques, que reste-t-il de la mémoire de Jan Palach? J'ai lu que la plupart des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui en République tchèque ne connaissent pas son existence.
Ça m'étonne que ce soit à ce point. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans le jardin du campus de Sciences Po à Dijon, il y a une petite statue qui commémore Yann Vallard. Mais c'est clair que 68 et tout ce qui s'en est suivi, comme d'ailleurs toute la période du communisme, c'est-à-dire je remarque que la mémoire de ce qu'était le communisme auprès des étudiants d'Europe centrale est en train de disparaître et globalement très faible. Encore qu'il y a des pays où, je dirais, c'est encore plus fort que des étudiants de la République tchèque ou de la Slovaquie, où quand même, en tout cas ceux qui choisissent des études de type Sciences Po, en général, ont une certaine connaissance de
un minimum. Que reste-t-il dans la mémoire collective du printemps de Prague pour Jiří Müller, qui était étudiant en 1968? Le printemps de Prague a permis, 21 ans plus tard, de mener à bien la révolution de velours de 1989.
Le printemps de Prague a permis l'ouverture des frontières, une presse non censurée, la liberté de réunion publique et d'association, ce qui était inconcevable sous le stalinisme. Je pense que sans le printemps de Prague, il n'aurait pas été possible pour le Forum civique en 1989 de se présenter avec un programme assez clair de démocratie politique, d'économie de marché et de retour à l'Europe. Le printemps de Prague a été écrasé par les chars, mais nous avons été capables d'en tirer les leçons qui furent les bienvenues 20 ans après.
Jacques Rupnik, la révolution de velours de 1989 aurait-elle été possible sans le printemps de Prague 21 ans plus tôt ?
Elle aurait été possible dans la mesure où il s'agissait pas d'un événement tchécoslovaque, mais de tout le bloc soviétique qui s'effondrait. Donc, il y a un lien avec 68, et ce lien, c'est pas forcément juste ce que dit Jiří Müller cet entretien qu'on vient d'entendre, mais c'est Gorbatchev. Parce que Gorbatchev était l'ami de Zdeněk Mlynář, un camarade de classe avec qui il a étudié dans les années 50 à Moscou. Puis, cet homme devient membre du bureau politique en 68. Il fait partie des réformateurs. D'accord? Il est exclu, évidemment, après 68. Mais les idées du printemps de Prague, Gorbatchev en était très familier. Et lorsque arrive 89, un ancien dissident 68-art, Jiří Dienstbier, qui était journaliste en 68, qui devient ministre des Affaires étrangères, à la première rencontre avec Gorbatchev, il lui dit « Mais c'est terrible, les chars russes ont étranglé l'espoir du printemps de Prague. » Et Gorbatchev lui répond « Ils n'ont pas étranglé que les espoirs du printemps de Prague, ils nous ont étranglés nous-mêmes. » Donc là, Gorbatchev comprend que, n'est-ce pas, 68 était une tentative, peut-être la dernière possible, pour peut-être transformer, réformer
aménager
ce système.
Ce que
les chars russes ont démontré que c'était pas possible, et que par conséquent, Gorbatchev arrive 20 ans plus tard, et 20 ans plus tard, il est peut-être trop tard. Et donc, quand la perestroïka se voulait une continuation de 68, et ça vire très vite à la catastroïka, à l'échec complet. Et donc, en ce sens-là, 89 deviendra une rupture par rapport à 68 et non plus la continuation.
Lukas Maciek.
Je crois que 68 a aussi rendu d'une certaine manière impossible en Tchécoslovaquie d'être un communiste croyant, si je puis dire. 48 des années 50, d'ailleurs y compris des hommes qui ont fait 68, il y a eu beaucoup de gens qui croyaient vraiment. Il y avait des communistes convaincus qui croyaient vraiment à l'idéologie communiste. Je pense qu'après 68, il y a un divorce et que effectivement la normalisation, elle était basée sur des cadres communistes qui étaient là clairement par la volonté d'une puissance étrangère. Et je pense que ça a quand même miner le régime, pas à court terme puisque la normalisation a quand même duré 20 ans, mais ça a quand même, je trouve, décrédibilisé durablement l'essence même de l'idée communiste qui était très forte dans les pays tchèques entre 45 et 48 ou même avant, dans les années 20 et 30. Donc d'une certaine manière le communisme a perdu sa légitimité et son pouvoir d'attraction avec cet épisode de 68.
Il y a quand même un petit paradoxe aujourd'hui en République tchèque, c'est la résurgence d'une sympathie pro-russe de la part des dirigeants tchèques, et notamment de Miloš Zeman, le président tchèque, qui est « on ne peut plus pro-russe ».
C'est un paradoxe qu'on voit dans d'autres pays d'Europe centrale. Et en même temps, est-ce vraiment un paradoxe ? Il ne faut pas oublier qu'en 89, lorsque le communisme s'arrête, il y a 1,5 million de membres du Parti communiste. Tout ça, c'est des gens qui ont géré les années de normalisation en s'alignant, en profitant aussi pour beaucoup d'entre eux, puisque la carte de membre de Parti communiste, c'était un passeport qui ouvrait beaucoup de portes de réussite professionnelle et autres. Donc forcément, la 89, c'était pas non plus un moment de l'unanimité.
D'un mot, Jacques Rupnik, est-ce qu'il y a un parallèle entre le 68 des Occidentaux et celui de Prague ?
Il y a un parallèle parce qu'il y a la simultanéité, puisque c'est la jeune génération avec la même tenue vestimentaire, les mêmes cheveux longs, qui écoutent la même musique, etc. Bon, mais il y a des différences essentielles. Dans la radicalité du gauchisme occidental, il y a la critique de la démocratie dite bourgeoise, la démocratie libérale. À Prague, quand vous venez de sortir de 20 années de stalinisme, vous ne méprisez pas les libertés dites bourgeoises et vous avez plutôt l'aspiration à en profiter. Et il en va de même pour l'économie. On peut mépriser l'économie de marché, la société de consommation. Si vous sortez de 20 années de pénurie, vous avez peut-être un regard un peu moins sévère sur les méfaits de l'économie de marché. Voilà. Donc il y avait le parallèle, mais il y a aussi des malentendus et des différences profondes.
Merci, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et Raymond Clarinard de Courrier International. Sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités, pour écouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée, il vous suffit de taper Carrefour de l'Europe RFI sur un moteur de recherche ou via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Paris, à Prague, où vous pouvez nous écouter en FM sur 99.3 ou encore dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.